Au lieu plaisir des Utopies, votre émission Radio Campus relative aux amours pluriels, réalisée et présentée par Philippe du site polyamour.be. C'est ici que la magie des amours multiples nourrit son imaginaire, c'est ici qu'elle s'offre aux rencontres métissées. À l'ombre du jour, le micro entre les dents, le cœur nomade, je parcours les berges à la recherche des polyglottes de l'amour. Bon, Sébastien, bonjour.
Mais bonjour, Polyphile.
Donc, tu m'accueilles avec Maïté, ici à ma droite. Je me sens bien accueilli chez vous.
Mais écoute, tant mieux, c'est important, on est bien chez nous aussi, finalement.
Donc, vous êtes arrivé à un café poli le mois dernier. Juste comme ça, deux, trois petits mots sur peut-être ce que tu as vécu un peu ce jour-là.
Ah, c'était une belle rencontre pour moi, en plus c'était une première fois, donc j'ai... C'est pas que j'étais intimidé, mais j'étais un peu sur la réserve quand même, malgré mon exubérance habituelle.
C'est la porte, la première fois, quoi.
Voilà, c'est ça. Et puis je me suis très vite senti très bien accueilli, très encadré aussi, une ambiance familiale, je trouvais conviviale et sympathique.
Moi j'ai senti de la lumière dans tes yeux. Hein.
Ah oui, moi c'était agréable parce que on se sent un peu seul aussi dans ces démarches quand on n'en parle pas autour de soi. Donc y aller rencontrer des gens qui sont dans cette même motivation, c'est assez réconfortant.
Est-ce que pour toi c'était un peu le même ressenti que Sébastien ?
Dans l'ensemble, oui. Moi j'ai été très surprise du nombre. Vous étiez nombreux avant qu'on arrive. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et ça, je m'y attendais pas. Sinon, contrairement à lui, je sais pas si je dévie un petit peu, mais moi j'en parle autour de moi.
C'est
peut-être prétentieux, mais si quelqu'un dit m'aimer, je trouve qu'il doit pouvoir entendre ça. Après, il en fait ce qu'il veut, parce que s'il n'est pas capable d'entendre ça, je me dis, mais tiens, mais il aime qui, en fait? Parce que c'est moi. Tout comme tu as demandé ce qu'on a porté dans le sac, mais c'était des choses végétariennes. Ça aussi, c'est moi. Est-ce que je place le polyamour au même niveau que le végétarisme? Je ne sais pas, quelque part oui, vu que c'est une philosophie de vie. Mais donc il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas d'animaux morts dans notre sac. Voilà.
Non, que la vie.
Mais j'ai l'impression qu'il est difficile de pouvoir aimer correctement quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même d'abord. C'est basique, mais en attendant, c'est ultra compliqué. Parce que ça demande effectivement de ne pas aller vers l'autre en manque. Et oui, on projette toute une série d'attentes chez l'autre et ça, c'est vrai. Dans le polyamour, depuis que je suis là-dedans, je fais des rencontres, des belles, des autres aussi, bien qu'elles me paraissent toujours belles, d'abord. Mais une fois sur deux, on ne parle pas d'amour, en fait.
C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut parler d'autonomie affective, une certaine autonomie affective, alors?
Quand on est polyamoureux, ça me paraît obligatoire. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Les attentes sont trop importantes et l'écart dans les envies.
Donc, Maïté, toi, ça fait combien d'années que tu es dans ces ouvertures-là?
Pratiquement 5 ans, mais les ouvertures datent bien, bien, bien plus loin que ça. Déjà, à l'adolescence ou quand j'en sortais, je ne trouvais pas ça juste quelque part, quand je rencontrais quelqu'un d'autre, de devoir complètement quitter l'autre. Oui. D'ailleurs, souvent, je revoyais encore la personne que j'ai dû quitter parce qu'on pouvait pas aimer, on ne pouvait pas aimer plusieurs personnes à la fois. J'étais malheureuse de ça. Oui. Celui que je quittais, il me manquait. Du coup, je le voyais encore un petit peu. Et puis, finalement, on ne se voyait plus. Mais c'est triste.
Et Sébastien, dans ton parcours, c'est aussi des ouvertures plus anciennes avec ce même constat de se dire, tiens, dans le fond, un amour se termine ou peut se terminer. Comment est-ce qu'on gère la fin? Est-ce qu'il y a des chevauchements? Comment ça s'est passé au départ?
Je pense que comme beaucoup, je me suis référé à l'éducation. En vivant les fins d'aventure, les fins de relations, tout en posant des questions quand même comme Maïté sur le fait du continuum. Là, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus voir l'autre? C'est une rupture, c'est obligatoirement une séparation. Et qui doit se passer par la douleur, comme l'enfantement, comme beaucoup de choses. Je ne sais pas. Donc là, il y avait quelque chose, c'est vrai, un questionnement. L'idée me plaisait depuis toujours, parce qu'il y a un côté épicurien, il y a un côté de recherche de liberté à tout niveau, et je pense que la plus grande des révolutions se fera dans l'amour, non pas dans la guerre, ni dans le conflit, mais dans l'amour. Anarchie, c'est amour, c'est la même lettre. C'est Léo Ferré qui disait ça, mais je suis de son avis. Donc c'est cette envie de sortir des sentiers battus qui m'a amené à avoir une grande réflexion sur l'amour de soi d'abord, parce que je pense que être polyamoureux En ce qui me concerne, bien qu'on ait l'impression que ça soit une démarche extérieure d'aller vers les autres, c'est, je trouve, une démarche intérieure. C'est d'abord aller à l'amour de soi. Et là, je rejoins Maïté, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et je le dis, ce qui me motive vraiment, c'est de pousser les limites au-delà de l'éducation, au-delà de toutes les peurs qu'on nous a inscrites. J'aimais bien ce qu'elle a dit, c'est la difficulté qu'on a à quitter quelqu'un obligatoirement quand la relation n'est plus possible. Et on a cette impression vraiment qu'on est inculqué un dieu, un mari, un dieu, une femme, tu vas honorer une seule personne, ton père, enfin des choses un peu comme ça, très patriarcales. Et en ça, le polyamour et la continuité de cette envie de révolutionner, sa liberté, tout simplement. Dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se libérer de soi-même et des entraves. Les premières entraves sont intérieures, c'est l'intellect. Donc mes débuts n'ont pas été aussi fluides que pour Maïté. Donc j'ai enregistré les informations, j'ai pu, par son témoignage, et puis moi étant son mari aussi, accueillir.
Quand tu dis son mari, c'est toi son mari?
Je suis le mari oui, de... Non mais pardon, étant donné que je suis le mari de Maïté, j'ai accueilli un peu l'expression de ce polyamour. Et j'ai travaillé personnellement dans mon cheminement individuel les peurs éventuelles qui pouvaient jalonner tout ce cheminement d'acceptation, d'intégration, de compréhension, de communication et de dialogue avec soi-même. Parce que j'ai l'impression que le polyamour, en tout cas, a cette volonté de dialogue. Et c'est ça qui me plaît. J'aime pas les choses trop préétablies. On nous dit, tous ces faux gourous qui nous disent ça c'est la vérité, il faut aimer comme ça, il faut honorer comme ça, il faut faire l'amour comme ça. Tout ce qui sort un peu des créneaux sociétaires sont les routes vers le bûcher, quoi. Donc voilà.
Je vois un petit Bouddha, enfin on est chez Maïté, hein. Peut-être, je ne sais pas si tu as un Bouddha chez toi, mais c'est, d'après ce que je sais un peu de la référence bouddhique, c'est aussi ça, il me semble, c'est trouver son chemin soi-même, c'est en phase avec ça.
Oui, je crois qu'il y a un tas de démarches extérieures, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon adolescence, j'ai été curieux de beaucoup de choses dans la spiritualité, et évidemment très curieux de m'approprier les moments de l'amour aussi dans ma vie, les premiers ébats amoureux, les premières embrassades, les premières déceptions, les premières choses, s'approprier les choses. Et puis le polyamour, depuis ces années-ci, toutes ces dernières années... Me permettent d'aborder l'intériorité de ça. C'est très intéressant. C'est une spiritualité vivante, extatique. Donc ça me plaît. Est-ce que je suis clair ou c'est pas été un peu trop?
Maïté, par rapport à tout ce que Sébastien a dit...
Il a évoqué le dialogue avec soi-même d'abord. Ça c'est sûr. Parce que si on n'est pas clair avec soi-même, ce qu'on va offrir ou donner à l'autre, ça ne sera pas juste, je pense. Donc d'abord être clair avec soi et puis avec l'autre. Mais Sébastien, c'est merveilleux, c'est mon mari, c'est mon amant, c'est mon frère, c'est ma meilleure amie. Donc dialoguer, mais constamment, et quand je rencontre des belles personnes, j'ai envie de le faire partager avec Sébastien, effectivement. Quand il m'arrive des belles choses, et en général il est heureux pour moi, c'est magique. Mais oui, le dialogue obligatoire.
Et quand tu dis qu'il est heureux pour toi, c'est à mon avis là la dimension supplémentaire. C'est là que ça fait peut-être toute la richesse d'un projet de partage, évidemment, se réjouir pour le bonheur de l'autre.
Mais c'est important ce que tu dis, parce que je pense que sur ce point-là, Sébastien et moi, on est un petit peu d'accord. Ce qui nous ferait mal, c'est voir l'autre se jeter dans une histoire dans laquelle il ne serait pas heureux. Ça, ce serait quelque chose de vraiment douloureux, je pense. Et ça, c'est difficile à vivre. Mais sinon, ben oui, pouvoir se réjouir de l'autre quand il est dans les bras de quelqu'un d'autre, pour l'autre quand il est dans les bras de quelqu'un d'autre, je pense que là, c'est vraiment une écoute où l'ego n'a plus du tout sa place, où c'est vraiment une écoute avec le cœur. Et ça, c'est magique.
Et qu'il y a un espèce de rapport maître-disciple, mais où on est et le maître et le disciple en même temps. Et donc, des tuteurs l'un pour l'autre. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, je ne parle pas de béquilles. On a dû l'être certainement dans des phases psychologiques réparatrices, l'un et l'autre. Une rencontre, souvent, se fait dans cette optique-là inconsciente. Mais quand on arrive à aller au-delà de la réparation intérieure, on est dans la réelle rencontre et dans le compagnonnage. J'aime son individualité, j'aime l'expression. Je ne supporterais pas d'elle qu'elle soit une femme soumise à une quelconque autorité, si ce n'est sa propre autorité. J'accepte qu'elle plie l'échine, qu'elle pleure si dans la douleur quand se passe une rupture, sans rentrer dans un détail qui n'est pas, il me concerne pas, mais donc pouvoir accueillir ça aussi, c'est un acte de foi.
Puis c'est très sécurisant, peut-être aussi, que tu proposes ça à Maïté.
Certainement, ça a dû être pour moi aussi révélateur, hein. Je dois me retrouver aussi. Il y a un côté salvateur, le sauveur, pas Giordano, mais il y a une part de ça aussi, hein, quand même, hein. Mais je pense qu'il y a une réelle écoute, une réelle envie de la connaître, et de fermer les yeux à la vie en ayant eu cette assurance d'avoir essayé d'aimer quelqu'un pleinement, pas uniquement quand elle me convenait. Pas uniquement quand elle me faisait plaisir dans ma vie, pas uniquement parce que j'avais dans l'idée d'avoir, enfin, que j'avais des plans sur la comète avec quelqu'un. Non, elle n'est pas venue au monde pour me faire plaisir. Mais si je l'aime, si j'ai la prétention de lui donner ce petit, il faut pas répéter trop souvent qu'on aime. Il faut plutôt dans l'action, c'est plus agréable que dans les mots. Mais c'est ça, c'est permettre à l'autre d'être soi. Et ça passe par l'enseignement, hein, par les écueils de la vie, par les rencontres extérieures. Se rendre compte également qu'on ne peut pas répondre à toutes les attentes de l'autre, ça c'est quelque chose qui nous enlève, qui nous fait perdre la plus grande bataille de l'ego. Parce que notre ego, c'est un espèce de Jules César qui a une envie d'impérialisme romain. Et puis, paf, il se ramasse la guerre de l'ego, qui est la plus grande guerre punique qui soit. C'est la grande bataille. En ne souffrant pas. J'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Je ne me permettrai jamais de sublimer quoi que ce soit dans l'amour que je lui porte en me laissant de côté, en m'abîmant,
Oui, c'est ça.
en m'oubliant. Non, c'est justement une polyamour et j'apprends, hein. Au fur et à mesure, je le dis bien humblement, c'est petit à petit, je ne suis pas à l'ombre d'un caillou et d'une cheville tordue, mais on va se soigner ensemble, dans le dialogue et dans la volonté d'amour, simplement, au quotidien.
Et par rapport au quotidien, justement, donc là on est chez toi, Maïté. Avant d'arriver, tu m'as proposé de toquer chez Sébastien. Donc vous avez vraiment organisé votre vie avec deux appartements très proches, hein, c'est l'un au-dessus de l'autre. Et donc c'est une envie qui est venue tout doucement de se construire comme ça. Et c'est pour vous, maintenant c'est évident et ça participe à l'organisation de votre fonctionnement.
Mais aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment on pourrait fonctionner autrement. Tellement c'est effectivement quelque chose qui nous convient bien. C'est pas une décision qui découle uniquement du polyamour. Ça en fait partie, évidemment. On n'a plus de lit conjugal, Sébastien et moi. Il n'y a pas que lui qui vient dans mon lit. C'était important pour moi de pouvoir accueillir quelqu'un que j'aime dans mon chez-moi. Et là, on avait un chez-nous jusqu'à il y a un an, c'était un chez-nous. Et effectivement, suite à une rupture douloureuse, où je me suis rendu compte que j'avais pas d'espace où je pouvais m'isoler. Où je pouvais pleurer comme j'avais envie, parce que c'était assez gênant finalement d'être malheureuse devant mon mari. Et parallèlement à ça, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vécu seule en tant qu'adulte. J'ai rencontré Sébastien, c'est lui qui m'a permis de m'aimer, ce qui est fabuleux. Et j'avais envie d'être seule avec moi d'abord, de me découvrir dans le quotidien. Avec Sébastien à proximité, parce que on est vraiment liés et on pourrait difficilement faire autrement. Mais donc oui, ça nous permet de se redécouvrir. On se donne des rendez-vous, on s'invite l'un l'autre, on fait des siestes ensemble et puis on va qu'à nos occupations respectives. Et ça, c'est magique, honnêtement. C'est une redécouverte.
Donc il y a une invitation de presque tous les instants, ou en tout cas dans les instants organisés pour la rencontre, il y a vraiment chaque fois cette espèce de pulsion d'inviter quoi, inviter l'autre, c'est ça? À recréer du présent.
Être complètement là pour l'autre. Quand j'invite Sébastien à manger, ben je vais faire quelque chose qui va me prendre peut-être un petit peu de temps. Je vais le faire avec amour, en toute conscience que j'invite mon mari à manger chez moi. Et non pas, bon, ben qu'est-ce qu'on fait à bouffer ce soir? C'est ton tour, c'est le mien. Oh non, je sais pas. Pff. Non, là, c'est sacraliser beaucoup de choses, en fait. Ça lui rend sa place, parce que c'est ma plus belle rencontre. C'est une manière de l'honorer, en fait.
Tu as dit un jour un truc qui m'avait marqué, je me souviens dans notre parcours, c'était que tu n'avais pas envie que je devienne ta plus belle habitude. J'ai beaucoup aimé ça. C'est pour l'ego, c'est aussi une réception. Venez, on est bon catcheur aussi, hein. Il y a beaucoup de spectacles là-dedans. Mais j'ai trouvé ça très beau, très fort, audacieux. Mmh. Et c'est vrai que chaque instant de rencontre, maintenant, il y a un côté divin, enfin, sacralisé. Il y a un sens sacré. Le mot est sacré, le langage est sacré, le rapport à l'autre est sacré, l'individu est sacré. On l'a juste oublié, enfin, je l'ai certainement oublié dans le parcours de ma vie, et là maintenant, je réintègre cette notion importante. Le lit conjugal ne l'est plus. Mmh. C'est-à-dire, la chambre redevient une chambre nuptiale.
C'est ça.
Où jusqu'à la définition de la sexualité, l'expression de la sexualité est beaucoup plus libre. Parce que ce sont deux individus qui choisissent vraiment les moments sacrés de faire l'amour. Mmh. Et ça, c'est intéressant. On ne fait pas l'amour parce qu'on est mari et femme. Mais dans l'obligation du couple, comme on a pu l'inculquer dans les générations précédentes, il faut faire l'amour à son mari, c'est important de ne pas lui refuser sa chambre et son lit. Mm-hmm.
Puisqu'on est dans la sacralisation de la rencontre, est-ce que tu as pu avoir des mains tendues ou des sentiments que tu as pu être aidé par une autre personne, par exemple avant, ou tu as pu toi aussi aider, hein, mais...
Dans mon parcours ici...
Être un peu chercheur quoi, avant. Quoi,
oui, c'est ça. C'est un peu ça. Je n'ai pas les mêmes expériences, heureuses ou malheureuses, que Maïté dans le polyamour. Pour l'instant, j'ai malheureusement pas eu une rencontre polyamoureuse. Donc j'étais évidemment confronté aux limites de l'autre. Ces limites m'ont apporté une grande leçon également de connaissance de mon parcours, de prendre conscience de la présence. Dans le passé, je suis amoureux des femmes depuis toujours. Mmh. J'ai une mère qui a été absente rapidement dans ma vie, pour des raisons de maladie et puis un décès qui s'en est suivi. Donc, quand même aussi un père absent, fort plongé dans le travail, donc entouré par ma grand-mère. Ma mère est une personnalité extrêmement présente. Donc la femme est très importante dans mon parcours. J'ai une recherche de la féminité de toute manière aussi. Je trouve que c'est l'origine de beaucoup de choses, donc, voire même du tout. Donc oui, pour répondre plus concrètement à la question, quelques rencontres féminines importantes, je pense, qui prennent date maintenant dans la réflexion que j'ai sur ces rencontres. Sur le moment même, non. Mais elles m'ont apporté cette envie casanoviste d'aimer les femmes, ça c'est sûr. Et pas être Don Juan, deux personnes qui certainement n'auraient jamais pu se piffer. Dans cette recherche-là, je serais plutôt casanoviste. J'ai un amour fou de la féminité. Et donc... je ne m'interdis pas des rencontres futures qui pourront m'amener plus loin dans la connaissance aussi. J'ai de l'amour pour la féminité et une volonté de connaissance. Enfin, l'énergie masculine, c'est une énergie où je lutte beaucoup.
Ah ouais.
Je dirais pas conflictuelle. Mais j'apprends aussi à m'ancrer dans ma masculinité, ce qui n'est pas une mince affaire. Être un homme, je pense actuellement, c'est pas simple. Mmh. Ça devait l'être certainement plus facilement au Moyen-Âge, où on avait un chemin tout tracé, j'ai envie de dire. Et encore, je crois que c'est une vision des choses, très personnelle. Mais on essaie esclave, on essaie et puis on essaie chevalier, on avait oui. un destin tout tracé. Je pense que justement le polyamour amène cette réflexion sur l'homme, qu'est-ce que la place de l'homme aussi, c'est très intéressant ça, à ce niveau-là. La féminité est pour moi quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup moins autoritaire, beaucoup plus, ou une autorité naturellement installée. Comme s'il y avait, sans être féministe, comme s'il y avait dans cette connaissance sensitive de la vie, le féminin étant plus sensitif alors que le masculin l'est également, hein, mais il l'a parfois oublié dans son côté martial, mais il est tout aussi sensible, il l'a juste enfoui sous une cuirasse de guerrier, justement, en dessous du guerrier, il y a le teddy bear quand même. Mais donc je suis beaucoup plus sensible à ce côté, au côté féminin. Côté le côté patriarcal, j'étais en lutte très simplement dans ma vie contre le père, l'image du père, très longtemps. Mm-hmm. Il m'a fallu me réconcilier avec cette force-là de la nature pour me réconcilier avec moi-même aussi, je pense. Il y a eu, en tout cas en moi, un conflit. L'envie d'affirmation masculine quand même. Mais j'ai toujours une part féminine très importante dans ma sensibilité. Je me souviens même de mon père qui me fout une claque en disant que j'étais trop sensible. Enfin, ce rapport-là, quoi. T'es artiste, les artistes sont des sensibles, sont des chochottes, quoi. Donc, sans lui faire le procès, hein, je veux dire, il lui-même inscrit dans ses croyances. Donc, voilà. Hein. Bon. Sortir de l'éducation. C'est intéressant. Donc je crois que dans cette vie-ci, moi je vais essayer de rentrer dans ma masculinité et d'en sortir en même temps. Pour pouvoir rentrer dans la féminité et en sortir aussi. Pour rentrer dans ce qui est vraiment le principe même de l'amour. donc voilà. Mais philosophiquement aussi, intéressant. Je trouve.
Maïté, qu'est-ce que ça te fait comme ça d'entendre Sébastien ? Bon, tu le connais bien, j'imagine.
Je trouve que j'ai bien fait de le demander en mariage. Oui. Mais sur ce coup-là, on est différents et c'est chouette. Moi, j'ai une grande part de masculin en moi. Mmh. Et donc là, le fait de me retrouver seule avec moi d'abord, d'habiter avec moi seule, ça me réconcilie avec mon côté féminin. Parce que j'ai choisi d'en faire un lieu féminin où la douceur, la tendresse et le côté cocon, voilà, c'est important pour moi. Donc je crois qu'on se complète vraiment bien. Et on apprend à s'équilibrer l'un l'autre.
Et quand Sébastien parle de cette envie d'extérioriser son masculin et puis de reprendre conscience du féminin, toi aussi tu fais ces allers-retours comme ça ?
Pas toujours de manière consciente, mais oui, je pense qu'on est chacun conditionné par beaucoup de choses, et ça prend du temps et beaucoup d'énergie parfois, de se dire, tiens, mais si je réagis comme ça, est-ce que c'est moi vraiment, ou c'est finalement toute ma famille et tout mon passé qui réagit à ma place, et donc pouvoir se voir sans filtre, oui.
Et dans tes relations extérieures polyamoureuses, comment tu sens que ça te nourrit ?
Ça me permet de découvrir le masculin dans toute sa splendeur. Parce que je ne tombe pas amoureuse de gens qui se ressemblent.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est très agréable. Et les étiquettes et les principes tombent les uns après les autres. Il y a quelques années, oui, j'ai un type d'homme qui me plaît. Mmh. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Une fois qu'on parle avec le cœur et qu'on regarde avec le cœur, En fait, il n'y a plus de style, il n'y a plus de type qui plaît ou pas. Et c'est une rencontre de cœur et ça permet d'aller très loin. Mais donc c'est très nourrissant, oui. Et ça permet de se connaître, effectivement. Parce que c'est des gens différents et c'était... Quelque part, ça nous définit. Mmh. Et savoir aussi quand ça ne nous correspond pas, ça c'est... J'apprends beaucoup aussi. J'apprends aussi que c'est pas parce qu'une personne nous plaît qu'il faut aller vers elle sexuellement.
C'est ça.
Enfin voilà, tout ça c'est des choses... Je pense que j'ai pas fini d'apprendre. Parce que je suis ouverte. Je trouve ça terriblement riche de pouvoir rencontrer une personne et pas devoir se mettre les barrières qu'on se met d'habitude. Zut, si elle me plaît, je suis mariée, je peux pas la regarder de telle manière. Ben là, c'est neutre en fait. J'aborde quelqu'un de manière neutre et j'ai pas peur de ce qui peut arriver. Donc. J'ai eu une belle histoire d'amour qui a duré un an. Elle dure encore aujourd'hui, mais l'amour a pris une autre forme. Et effectivement, là, j'ai dû expliquer un petit peu les choses. Et cette personne n'est pas polyamoureuse.
C'est ça.
Mais je tombais à un moment de sa vie et voilà, ça s'est bien mis à ce moment-là. Mais voilà, elle a choisi une autre voie. Sinon, j'ai beaucoup de chance. Une rencontre que j'ai faite dernièrement, c'est quelqu'un de polyamoureux. Mmh. Donc ça, ça facilite beaucoup de choses, évidemment. C'est reposant. C'est reposant parce qu'on ne doit pas convaincre l'autre. On sait qu'il n'a pas d'attente que je pourrais pas combler, donc c'est... Et puis il y a les autres qui n'acceptent pas, qui prétendent que oui, mais en fait non.
Et dans la personne dont tu parles, qui est aussi polyamoureuse, est-ce que tu as pu rencontrer sa compagne ou une des autres compagnes?
Oui, je pense que sa compagne est une copine, en tout cas. On ne doit pas s'aimer, mais c'est un plus, si on s'apprécie. Mais a priori, c'est pas une obligation, mais... Mais c'est... J'ai envie aussi de rencontrer la personne que... avec qui vit la personne que j'aime.
C'est ça.
Je sais pas si c'est clair, mais...
Mais Clémentine, réseau, oui, Clémentine, qui est aussi dans le réseau ici, Polyamour, parlait de ça aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de la rencontre qu'on peut faire avec une personne, si elle-même est en relation avec une tierce, ne pas se mettre en opposition et en compétition, comme la société voudrait nous le faire croire, et plutôt observer qu'on peut être allié et s'entendre et que ça circule entre tout le monde et que chacun puisse s'y retrouver, c'est ça?
Mais tant que chacun a sa place, et est bien dans cette place-là, et n'attend rien de l'autre qui viendrait guérir quelque chose, je crois que tout peut fonctionner. Mais j'ai une curiosité naturelle à vouloir connaître l'autre et connaître la personne qu'elle aime, ça me paraît être important. Mais ce n'est pas obligatoire.
C'est ça. Est-ce que tu as déjà vécu ça avec Sébastien, que lui rencontre une autre personne et que tu puisses la rencontrer? Ça s'est passé déjà?
Ça s'est passé, effectivement. Mmh. C'était des chouettes moments. J'ai rencontré son amoureuse à l'époque. Et je trouve ça un côté... Comment on dit ça, c'est tout à fait grisant,
ouais,
pour tout le monde, je crois, de pouvoir se retrouver autour d'une table et de s'observer et de sentir qu'il n'y a que de l'amour qui passe entre tout le monde. C'est très riche, je trouve, en fait. Voilà.
Je confirme. Je confirme parce que c'est un moment fabuleux que j'ai pu vivre aussi. Et ce sont des découvertes. Et donc, il y a eu chez moi cette envie de vouloir faire partager ça,
oui,
en disant, mais donc ici, Maïté utilise le mot grisant. Oui, voilà, c'est un mot. Moi j'utilisais des moments d'extase, en fait. Mm-hmm. Enfin, une espèce de plénitude. Toi, tu as vécu ça aussi?
Oui, tout à fait. Il y a un moment comme ça, avec une petite inquiétude de femmes que j'aime en même temps et puis qui se côtoient sans moi. Ça a été aussi parce qu'elles se sont rencontrées également sans que je sois là. Donc c'était vraiment assez à ce moment-là. On se dit, oh là là, de quoi elle parle. Enfin, il y a une curiosité un peu comme ça masculine. Mais sinon, oui, c'est vraiment très chouette, je trouve. Allez. Il y a une certaine sérénité.
Oui, c'est ça.
On se sent serein. C'est possible, ça existe. Les gens peuvent entendre l'amour qu'on a pour une personne et le vivre aussi intensément et l'accepter. Malheureusement, bon, les suites des événements ont prouvé que cette histoire était limitée, tant de mon côté que du sien, mais très humain. On met carte sur table, quoi, les choses sur table, paf. On se connaît, on sait, on connaît les enjeux. C'est assez clair, je trouve une transparence. Mmh. Et donc ça, c'est grisant, c'est vrai. Ça rejoint un peu l'extase, comme tu dis. On se sent un peu soulevé dans un moment de pur bonheur.
Et est-ce que justement, par rapport à la littérature, puisque tu écris, oui. Bon, moi j'ai aussi découvert une certaine audace dans la poésie, hein, puisqu'à l'école on m'avait dit que je faisais plein de fautes d'orthographe et que voilà. Oui. C'est, hein, j'ai repris le plaisir des mots bien plus tard, donc il y a quelques années, avec l'envie de se dire, mais dans le fond, oser coucher sur le papier des phrases, des tournures, de la poésie, c'est quelque chose. Et donc, moi, ma créativité est arrivée à ce moment-là. Hein, donc, quand j'ai pu vivre aussi deux relations de manière assez extraordinaire, même si, comme toi, à la fin, il y a eu des choses plus difficiles et qui, en même temps, aujourd'hui, se résorbent. Donc, c'est assez fabuleux. J'ai laissé un peu de temps aussi. Mais toi, tu as eu aussi un effet dans ton écriture, donc suite à cette découverte. Est-ce que tu as écrit un peu autrement? Est-ce que tu as eu besoin d'extérioriser ça?
Écoute, je pense. D'abord, une manière aussi, une écriture plus, allez, on va dire, thérapeutique, comme ça. Où je me mets, une mise à nu.
Carnet de bord. Quoi.
Carnet de bord, peu journal de bord d'un polyamoureux. Mais où je mets un peu quelques anecdotes, des émotions qui passent. Je pense que oui, ça forge l'écriture de toute manière, comme j'écris depuis que je suis tout petit. Ouais, ça fait plus de 30 ans que j'écris, je crois. Ouais. Donc c'est clair qu'il y a, une imprégnation, ça c'est sûr. Déjà dans le questionnement sur les sujets abordés, l'amour, sur les relations humaines. Et donc j'aimerais, je pense, à un certain moment, me pencher sur l'écriture de quelques textes, quelques canevas en tout cas, de réflexion sur le polyamour. Parce que je pense qu'au niveau de l'écriture, il y a quelque chose à faire aussi. La poésie, vraiment, c'est ma première maîtresse. Donc, c'est ce que je lui ai dit quand elle est rentrée dans ma vie, en plus. Donc je la considérais déjà comme une femme qui avait sa place dans mon lit. Et donc voilà, quoi. Mais ça n'a pas changé. Donc oui, ça change. Il y a quelque chose dans la liberté individuelle qui s'inscrit, donc obligatoirement ça s'inscrit dans mes textes. J'ai même envie de dire que je passe même où j'ai eu des phases de textes en colère, mais pas forcément sur le polyamour ou sur ce que je vivais. Je suis quelqu'un qui dans l'écriture aussi exprime beaucoup de force martiale.
Martiale.
Oui, tandis que les choses se féminisent aussi dans l'écriture. Donc je laisse le temps. Il n'aime pas les choses qui se font sans lui. Le temps fera son travail sur l'écriture, je crois. Mais mon envie vraiment d'écrire sur ça se précise, en tout cas.
Et donc tu reviens, tu parles du temps dans l'écriture, ça veut dire que parfois tu ressors des anciens écrits
hein. Ça c'est nouveau aussi, parce que je suis quelqu'un qui a toujours écrit d'un premier jet et ne revient jamais sur en écriture automatique comme ça. Et spontané, je ne reviens jamais sur ce que j'écris. Voulant garder l'authenticité de l'émotion. Et puis je travaille beaucoup dans la pataphysique aussi, dans les choses comme ça. Mais j'ai été rechercher des textes, oui, anciens, sur lesquels je rajoute maintenant une texture nouvelle, une lecture nouvelle. Notamment des textes sur la femme, en règle générale, sur la femme idéale. Quoi qu'elle ne doit pas exister, il ne doit pas y avoir de piédestal. Mais.
Enfin, il y a déjà celle en toi, hein, qui
voilà. Sur la femme en moi déjà. Mais elle, je lui parle souvent, je crois. Ouais. Donc, je laisse le temps faire son travail sur l'écriture.
Et toi, Maïté, sur le thème de l'écriture, c'est quelque chose d'important pour toi aussi, l'écriture?
Celle des autres, oui, beaucoup.
Ouais, mais tu lis pas mal.
Je lis pas mal. Ben oui, c'est des amis, les bouquins. Ça permet d'ouvrir des portes, de semer des petites graines et ça fait son chemin. Il y a par exemple des bouquins que j'ai achetés il y a une dizaine d'années et que je ressors seulement maintenant, parce que maintenant c'est le moment de les lire.
Lesquels, par
exemple ? Là, c'est le Tantra,
oui.
Qui je trouve va bien avec le polyamour.
Oui.
Mais sinon, pour l'écriture, lui, c'est automatique. Moi, j'ai la trouille de la page blanche. Donc, moi, je ne m'en sers pas pour déposer des choses ou quoi. C'est pas mon mode de fonctionnement. Mais je me sers beaucoup de ce que les autres ont écrit, effectivement. Dans le parcours du polyamour, c'était une aide, un moment énorme. Parce que quand on commence là-dedans, si tu as le malheur de regarder la télé ou d'écouter la radio, mais tu te rends compte que tu vas complètement à contre-courant. Et que si finalement la jalousie, la tromperie n'existaient pas, mais combien de films ne seraient pas sortis? Parce que c'est un sujet qui passionne finalement. C'en est inquiétant. Donc oui, je me suis jetée dans Bienheureuse infidélité. D'accord. Je lisais en cachette quand Sébastien n'était pas là, t'imagines? Oui, je ne lui avais pas encore annoncé que j'avais fait une très belle rencontre. Mais j'aime bien le dernier aussi. Enfin, je ne sais pas si c'est le dernier, c'est en tout cas le dernier que j'ai lu et qu'on a lu ensemble, je pense, La Sainte Folie du Couple.
Ouais.
Ça, c'est vraiment très, très, très enrichissant. Et c'est... Oui, c'est du vécu, en fait. On peut voir un petit peu par quel stade on est passé, où on en est. Je trouve que c'est une excellente remise en question, tant individuelle que de couple. Donc, voilà.
On se pose toujours des questions sur l'amour, de toute manière, depuis toujours, le plus haut de l'humanité, je crois, depuis qu'on a pris conscience qu'on aimait l'autre.
J'entendais quelqu'un dire ça, justement, qu'il suffit d'écouter une discussion comme ça dans un tram entre les gens, quoi. Trois quarts de discussion, généralement, c'est comment on est en relation avec les autres, quoi. Comment on se situe, comment...
On vit dans une drôle de société, quand même, qui fait l'éloge du mensonge, et dès qu'on dit la vérité, enfin, qu'on propose sa vérité, on est mis au banc de la société, où on est catalogué.
Et justement, dans ton entourage, les amis, la famille, comment ça se passe?
Ah oui, ça a été très drôle, parce que j'ai eu des moments, des débuts un peu laborieux. Faut dire que je suis passé quand même aussi par une phase d'acceptation, donc ça a été dur aussi pour moi. Quand j'en ai témoigné autour de moi, beaucoup de gens ont voulu me remettre dans un espèce de droit chemin. Alors je suis revenu comme avec mon petit panneau en disant « Laissez-moi ma tristesse, laissez-moi ma peine, je vais la travailler moi. » Puisque je vois qu'en vous en témoignant, vous voulez me remettre dans l'orthodoxie des choses, je vais quand même rester dans ce que j'ai envie de faire. Et puis j'ai eu du soutien par la suite, les gens ont compris qu'au-delà des apparences, il y avait une volonté vraiment profonde. Mais
tu te sentais observé, peut-être,
oh oui,
dans cette phase-là.
On se sent catalogué.
Est-ce qu'il est malheureux? Comment ça se passe?
Ouais, il est malheureux, et alors les gens veulent à tout prix effacer le malheur. La tristesse ne veulent certainement pas prendre non plus... Donc ça doit être, c'est une société de loisirs, hein. Tout doit couler de source, hein. Les couples doivent bien fonctionner. Quand ils ne fonctionnent pas, hop, on le plaque et on prend quelqu'un d'autre pour continuer son bien-être. Cette société-là, cette côté. Et dès qu'il y a un souci de travail sur soi, bien qu'on soit motivé par un tas de gourous autour de nous et des publications en tout genre pour s'occuper de nous, quand il est réellement question de s'occuper de nous, il n'y a pas de jurisprudence. Donc on se retrouve un peu largué, seul, avec beaucoup de gens qui ont envie de nous remettre dans une orthodoxie, parce que la société est comme ça, quoi. Ah, t'es malheureux, mais comment tu peux rester avec quelqu'un qui te rend malheureux? J'ai eu ça comme... On m'avait lâché ça. Maïté te rend malheureuse. Enfin, te rend malheureux. Alors pourquoi tu peux rester? Mais j'ai dit, attendez, là. C'est d'abord un choix personnel. Mm-hmm. Donc c'est ma force individuelle. Enfin, excusez-moi, c'est mon cheminement. Laissez-le-moi. Enfin, je m'approprie. Ouais. Et puis, c'est pas à pas. Mm-hmm. On passe par un... par ces moments-là aussi, un travail sur l'ego, sur qu'est-ce qui est vraiment une réelle souffrance ou un monté en cirque. Souvent, on se rend compte de ça aussi en travaillant sa peine, qu'elle peut être fausse parfois, hein. C'est pas la nôtre. Donc j'étais assez surpris. Donc on est, comme tu le disais, un peu observé. Ouais. Les gens sont curieux, disent oui, ça a l'air super génial, c'est formidable, moi je pourrais pas. Moi personnellement, je pourrais pas. Ça, on l'a souvent. Ouais. C'est génial, c'est formidable, votre truc. On aimerait bien être vous, mais moi, je pourrais pas. Moi, vraiment, je peux pas. Moi, non. J'ai besoin de posséder l'autre. J'ai besoin de savoir où je vais. Enfin, j'ai un plan déjà bien établi de A à Z avec je vais faire ça, ça sera la voiture, le chien, la maison. Enfin, Donc, non, ça ne rentre pas dans. Mm-hmm. Ça fait trop peur. Mais il faut accepter ça aussi. Et puis je pense que...
La peur peut être un guide, quoi.
C'est un guide aussi. C'est un guide.
Si t'as pas peur, dans le fond, c'est que t'as rien à apprendre, toi.
Moi, je me suis rendu compte aussi personnellement que quand ça coinçait en moi, quand ça criait en moi, quand elle vivait quelque chose et que ça criait en moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas réglé en moi, qui fait que ce qu'elle vit à l'extérieur de moi, donc c'est vraiment, on n'a aucune influence sur ma vie, qu'est-ce qui fait que ça gueule autant en moi? Et alors, c'est... individuellement accompagné aussi, ça peut, hein, on peut aussi se faire accompagner, pas de tort, pas de mal à ça, c'est travailler, travailler en soi ce qui coince, quoi, plutôt que de vouloir aller travailler dans les autres, à fixer des codes, c'est un peu ça les codes de la société, c'est un individu qui décide, ah ben non, on va prendre ça, on va penser ça pour tout le monde, et c'est comme ça qu'il faut faire, un peu Saint François, qui a décidé à un certain moment le célibat des prêtres. Alors que lui s'est bien marré avec toutes les gonzesses pendant toute sa vie de commerçant, et puis qu'il y a eu une illumination à un certain moment et qu'il a décidé pour les autres, lui ou Saint-Benoît plutôt. Mais...
Saint-Justin.
Et Saint-Augustin.
Saint-Augustin.
Saint-Augustin, bien au 5e siècle, lui. Ouais. Saint-François, beaucoup plus tard. Ouais. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est des illuminés qui décident une fois pour toutes de créer des codes et on doit rentrer dedans. Non. Donc quand je suis, j'ai amené cette histoire, pour en revenir à la question que tu posais, le regard des amis et des proches, quand j'ai amené mon histoire dans leur histoire, ils n'avaient aucune jurisprudence, ils ne savaient pas se référer à quoi que ce soit. Donc ça leur a fait peur, donc ils se sont référés à...
Et c'est quelque chose où c'est toi qui avais envie de partager, ou c'est eux qui t'observaient, qui avaient envie de te questionner?
Écoute, moi j'ai eu besoin aussi, hein.
Oui.
Un besoin d'être réconforté aussi, parce que... On décide de délaguer la jungle, mais ça repousse derrière. Hein. Donc on part avec la machette, mais ça repousse au fur et à mesure, hein, qu'on rentre dans à défricher, quoi. Donc on a besoin de soutien. Moi j'ai dit à mes amis, écoutez, moi j'ai pas besoin que vous critiquiez ma démarche, j'ai besoin que vous me souteniez.
C'est ça.
C'est-à-dire que vous puissiez entendre ce que Maïté a dit tout à l'heure, être entendu en amour, c'est important. J'ai besoin que vous entendiez ce qui arrive, parce que c'est nouveau. Tant pour vous que pour moi, tout compte fait. Mais allons-y, quoi. Soyons audacieux. Ayons l'audace d'être nous-mêmes. Moi, je veux être moi-même. Aidez-moi. Donc voilà. Et plus tard, il a fallu un peu de temps, quoi. L'onde de choc, le caillou est tombé dans la... Après les ondes de choc, et puis ça s'estompe. C'est toujours la rivière, hein. Elle coule toujours. Donc les amis sont là. Ils sont là, bien présents. Ils sont bien présents, ils ont pris conscience. Voilà. Et quand ils ont des questions, ils posent des questions. Il y a des choses, on voit qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aborder, mais tout ne s'aborde pas non plus en amitié, forcément. Je veux dire, il y a une commune mesure, on ne va pas choquer l'autre. Mon envie n'est pas choquer l'autre quand j'en parle. Donc j'en parle moins. Comme Maïté exprimait son envie de témoigner aux autres son polyamour, moi pas forcément. Pardon, mais quand ça vient dans la conversation, ça vient.
Voilà, c'est ça.
Voilà, mais je vais pas provoquer forcément. Ouais, ouais, Le sujet de cette matinée sera le polyamour. Non, pas du tout. Mais Maïté non plus, c'est pas ce sens-là qu'elle disait ça, mais... Mais donc voilà, je crois que c'est oser exprimer la différence.
Et toi Maïté, par rapport à... Bah oui, on entend les cloches qui ça ne leur plaît pas, ou ça leur plaît peut-être. Maïté, toi dans ton... Ce sera peut-être la fin, tout doucement, notre belle rencontre. C'est... Dans ton entourage proche, est-ce que tu as eu du soutien, ou est-ce que c'était une lutte, ou comment ça se passe?
Les amis, la famille.
J'ai eu du soutien, en règle générale. Mais... Je suis pas sûre que j'en avais réellement besoin. Je sentais ça tellement juste... que parfois c'était les autres qui avaient besoin de soutien, ceux à qui je l'annonçais en fait. Oui, ça renverse tellement, ça fait tellement appel à plein de choses. Et... Non, j'ai... Ben, je te dis les livres, oui. François Saint-Père, Paul Salomon, etc. Enfin, etc. Non, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Mais de l'acceptation de la part des gens que j'aime en fait, et j'ai pas besoin de plus. Maintenant, je n'aborde pas spécialement le sujet. Ça reste très vague. Mais ce qui importe pour mes amis, c'est que je sois bien. Alors c'est ça, en général, la question, c'est comment est-ce que ça va avec tes amours? Voilà, ce qui est quand même une manière de s'intéresser.
Bien sûr.
Mais la famille, non. Ce qui est parents, mais je n'ai plus que mon père. Et c'est, non, ça a été difficile. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire que je trompais Sébastien.
D'accord.
Classique, quoi.
C'est ça.
Ça fait moins peur.
Voilà. Ah oui, c'est ça.
Et aussi, c'était très difficile pour mon père d'imaginer qu'il y avait encore un « nous ». En fait, il parlait plus de Sébastien et moi. C'était « Tiens, est-ce que tu viendrais à la maison ?» J'ai quand même dû lui dire que mon couple existait encore.
Ouais.
Alors voilà.
Et aujourd'hui, il comprend toujours pas ça.
Il va pas poser de questions, mais il y a des petites blagues de temps en temps quand je dis « Mais non, écoute, je vais venir avec mon amoureux. » Il y a un blanc. « Tu parles de Sébastien ?» Je dis « Ben oui, bien sûr, papa. » Voilà.
Ok. Ben, je vous remercie bien.
Ben, merci à toi.
Merci à toi aussi.
Dernière petite phrase, quelque chose à communiquer.
Je trouve... j'avais envie de dire que le polyamour, c'est naturel. Ouais. Ça me semblait naturel. Voilà. Quand on chasse un peu les sorcières de l'intellect, c'est très naturel. Mmh. C'est très beau et très spontané. Et que ça ne m'étonnerait pas que ça soit bien plus spontané que l'éducation, parce que ça n'a pas l'air de s'apprendre, en fait. Le polyamour, ça n'a pas l'air, on ne doit pas apprendre. Quand moi je dis que j'évoluais pas à pas, c'est dans la connaissance de moi, mais pas dans la connaissance du polyamour. Polyamour, ça ne s'apprend pas. L'éducation, on est obligé de nous inculquer les choses pour nous faire croire à pas mal de choses. Ça semble naturel. C'est mon point de vue, complètement subjectif. Mais je clôturerai pas ça. Mmh. Donc, sans faire de prosélyte, vive le naturel.
Maïté, une dernière envie, comme ça?
C'est pas de moi, mais j'adore cette petite phrase. Je sais plus de qui c'est. C'est que c'est tout simplement pas gentil d'empêcher l'autre d'aimer quelqu'un. Voilà.
Les musiques qui illustrent cette entrevue sont Sieste Ocho du groupe Suerte pour le générique début et fin, et deux morceaux du groupe Jazz Pospolita, le premier Siagel Katos Ni Pita et le second Polichette Jazz. Ces groupes sont disponibles en téléchargement libre sur jamendo.com sous licence Creative Commons 2.5. Sur le site de polyamour.be, vous trouverez toutes les précieuses informations relatives aux amours pluriels, comme la possibilité de réécouter toutes les émissions Polyplaisir des Utopies en téléchargement ou en écoute sur un lecteur intégré à la page de l'émission. Inscrivez-vous aussi au forum pour connaître les détails des rencontres Polycafé qui ont lieu chaque premier mercredi soir du mois à la maison Arc-en-Ciel, rue du Marché au Charbon, 42 à 1000 Bruxelles. C'est un bar associatif à deux pas de la Grand Place. Vous y venez de plus en plus nombreux, l'ambiance y est chaleureuse. C'est un endroit ouvert à tous, que vous soyez dans une relation polyamoureuse ou non, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également les dates de diffusion sur Radio Campus.
le deuxième mercredi du mois à 21h30 et en rediffusion le quatrième jeudi du mois à 16h sur 92.1 MHz à Bruxelles. Cette émission est produite sous licence Creative Commons 2.5. Je vous retrouve le temps d'une traversée dans quelques semaines sur l'autre rive, celle des imaginaires collectifs, celle des polyplaisirs, des utopies.